Donc, texte biblique concerne la confirmation. Je vous ai expliqué dans les rappels que la confirmation, c'était quelque chose qui venait affermir, et la confirmation, c'est la confirmation du baptême. Ça vient confirmer notre baptême. Pour comprendre tout ça, on va aller regarder dans la Bible. Je vais essayer de vous prouver bibliquement que tout ce que je vous ai raconté pendant une heure était vrai, et que ce n'est pas une pure invention de ma part, ni une pure invention de l'Église catholique, de sa hiérarchie, de son histoire, de ses grands savants, mais qu'effectivement, ben, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, avec ce qui est moins évident pour nous, le fait que c'est écrit dans une autre culture. Ça s'inscrit dans la culture juive. C'est écrit en hébreu ou en grec. Il y a beaucoup de choses qui parfois sont moins visibles une fois que c'est traduit en français, parce que le traducteur n'a pas traduit le même mot hébreu par toujours le même mot en français, le même mot grec par toujours le même mot. Donc après, pour retrouver les correspondances avec les mêmes mots, c'est plus hasardeux. Donc on va, pour comprendre notre propre confirmation, regarder en Jésus à quoi ça correspond. Je vous ai dit, la confirmation nous donne les sept dons du Saint-Esprit. Les sept dons sont sagesse, intelligence, conception, sens, crainte, force et piété. Hop, okay. D'où ça sort, quoi? À part de l'abbé Sprit qui vous pond ça, où est-ce qu'on allait chercher ça? Forcément, on a été gratté dans la Bible. Donc je vous dis, commençons par le commencement. Le baptême de Jésus. Si la confirmation confirme mon baptême, je vais regarder un petit peu du côté du baptême de Jésus, peut-être que ça me donnera des indices. Il est dit que l'Esprit Saint se manifesta sous la forme d'une colombe. Mais en fait, c'est depuis sa conception, Jésus est depuis sa conception celui en qui demeure l'Esprit Saint. Il est Dieu fait homme, l'homme uni à Dieu, totalement consacré à Dieu par nature. En soi, Jésus, c'est Dieu fait homme. Donc, le Saint-Esprit, on pourrait dire, troisième personne divine, hein, le lien entre l'amour, entre le Père et le Fils, eh bien, il est, si Jésus, il est bien Dieu fait homme, un homme uni à Dieu, eh bien, il est forcément uni en tant que Dieu et au Père et au Saint-Esprit. Donc, voilà, l'union avec le Saint-Esprit, la consécration au Saint-Esprit, eh bien, elle se fait dans son être même, dans sa personne, dès sa conception. Dès que Dieu se fait homme, il y a conception dans le ventre de la Vierge Marie, eh bien, toc, il commence à être en tant qu'homme consacré au Saint-Esprit. Mais il n'empêche que au baptême de Jésus, quand Jésus vient se présenter à Jean-Baptiste et qu'il commence ce qu'on va appeler sa vie publique, sa vie public, ça s'oppose à vie privée, hein, sa vie manifestée à la vue de tout le monde. Et bien voilà, premier épisode de la vie de Jésus publiquement à la vue de tout le monde, ça va être son baptême. Donc Saint Jean nous dit, cela se passait à Bethabara, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Ça, c'est une citation du livre d'Isaïe, prophète Isaïe. « Je parlais de lui lorsque j'ai dit « Après moi vient un homme qui déjà me dépasse, car bien avant moi il était. » Moi, je suis un homme, lui il est Dieu. Donc forcément, il était avant moi. « Je ne le connaissais pas, mais je suis venu avec le baptême d'eau pour qu'il puisse se manifester à Israël. » Et Jean fit cette déclaration « J'ai vu l'Esprit qui descendait du ciel sur lui comme fait la colombe, et il est resté sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser avec de l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras que l'Esprit descend et reste, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Cela je l'ai vu et je peux déclarer que c'est lui le Fils de Dieu. » Donc Saint Jean-Baptiste, il dit, voilà, j'ai une espèce de, pressentiment ou certitude dans sa vie de prière, de relation avec Dieu, à la fois que lui-même doit baptiser, qu'il doit préparer les chemins du Seigneur, de celui qui vient, etc. Et puis, que celui sur qui tu verras l'Esprit, que l'Esprit descend et reste, c'est lui qui baptise l'Esprit Saint. que celui qui viendra, que le Messie à qui il prépare le chemin, a cette caractéristique, ou en tout cas il est décrit comme ça, celui sur qui tu verras que l'Esprit descend et reste. Et cette expression, le fait que l'Esprit descend et reste sur lui, voilà, c'est Saint Jean-Baptiste, j'allais dire, ne l'invente pas non plus. C'est une description du Messie qui existe déjà avant lui. De même qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui est le sujet du monde », l'agneau de Dieu, je dis, c'est une expression qui vient du prophète Isaïe. Celui sur qui l'Esprit reste, c'est aussi une expression biblique qui vient de l'Ancien Testament et des prophètes. Justement, le prophète Isaïe. Donc, le baptême, début de la vie publique. Chez Saint Luc, la vie publique de Jésus commence ainsi. Baptême par Jean-Baptiste, retraite au désert pour être tenté, pour vaincre les tentations, retour en Galilée, où Jésus prêche de la sorte dans la synagogue de Nazareth. Donc, vous avez mis chez Saint Jean le baptême, et puis la suite de l'histoire, on va la voir chez Saint Luc. Donc, baptême, retraite au désert, et puis retour en Galilée. Donc, on est encore au tout début de la vie de Jésus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que dit Jésus? Alors, bon, il arrive, on lui tend le rouleau des prophètes, jusque-là c'est la cérémonie normale, il choisit le passage, il a le droit, c'est comme ça que font les juifs dans la synagogue le samedi, le sabbat. Il fait la lecture et ensuite il s'assied, et s'asseoir c'est pour enseigner. Celui qui a autorité s'assied pour enseigner. Donc là, jusque-là, c'est normal. C'est pas qu'il a plus rien à faire. Nous, hein, de notre culture, quand on s'assied, c'est qu'on a fini. Là, quand on s'assied, c'est qu'on va pouvoir parler avec autorité. Et dans la liturgie de l'Église, normalement, et après, ça dépend de son bon vouloir, mais normalement, il est recommandé à l'évêque de prêcher assis. Voilà, on lui met un siège devant l'autel et il prêche. Voilà. Il s'assied. Il refait le geste de dire, ben voilà, c'est moi qui ai l'autorité pour causer. Et vous. Donc Jésus s'assied, et puis après, qu'est-ce qu'il leur dit? Le seul sermon qu'il fait, le commentaire, c'est une phrase. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire?
C'est
moi l'envoyé. Voilà. Je vous lis une prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et ils disent, aïe! Grosso modo, ce que je viens de vous lire, ça s'accomplit. C'est moi. Donc, pas trop gonflé comme commentaire. Tout lui rendait témoignage, il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Traduit en français courant, ça donne, il n'est pas gonflé. Mais voilà, ce qu'il vient dire, c'est moi dont il s'agit dans le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est un des prophètes qui annonce le plus clairement la venue du Messie. Et avec le plus de force et de récurrence, la venue du Messie. Voilà. C'est pas le seul prophète. C'est le prophète qui a à peu près le plus de prophéties. C'est le livre le plus gros des prophéties dans la Bible, le plus long. Et puis honnêtement, voilà, c'est lui qui a le plus d'indices et de descriptions assez précises, voire même extrêmement précises concernant le Christ. Voilà. Et pareil, si vous regardez la Passion de Mel Gibson, la première phrase avant que le film ne commence, j'ai une citation de la Bible, Isaïe, 850 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est nos fautes qu'il portait, voilà, c'est nos péchés qui ont été appuyés, je crois que c'est ça la phrase qu'il a citée. Mais n'empêche, voilà, prophète Isaïe, et tout le film de la Passion va ne faire qu'illustrer ce qu'a dit le prophète Isaïe, et notamment, il donne des descriptions de la Passion du Christ qui sont prodigieuses. Voilà. Voilà, ils ont creusé des sillons dans mon dos. Ça, c'est la flagellation. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Moi, c'est la phrase qui me sidère totalement. Parce que quand Isaïe dit ça, donc 850 avant Jésus-Christ, la crucifixion, enfin, les Romains n'existent même pas. Rome n'a pas été fondée. La crucifixion, c'est un supplice que les Romains ont emprunté aux Carthaginois, parce que les Carthaginois crucifiaient les Romains. Ils se sont dit, tiens, ça fait bien mal, c'est efficace, on va le prendre. Donc, ils ont adopté la crucifixion pour les esclaves, les ennemis et les gens de basse condition, sachant qu'un citoyen romain, celui qui a la nationalité romaine, il a le privilège de faire couper la tête. Voilà. C'est propre, c'est net, c'est sans bavure, c'est rapide. Celui qui n'est pas romain, il souffre. Et on lui fait la crucifixion, qui est une mort lente par asphyxie. Vous pourrez essayer là, de mettre les bras en croix et puis de tenir. Vous verrez qu'au bout de 5 minutes, là, vous avez les pectoraux qui commencent à s'enfiloser. Et la crucifixion, c'est une mort par asphyxie parce que ça bloque les muscles des poumons. Voilà, donc on doit mourir à petit feu. Et puis, le fait donc de crucifier et de percer du coup les mains et les pieds, c'est quelque chose d'extrêmement précis dans la description de la Passion de Jésus. Et je vous dis, quand Isaïe dit ça, le supplice n'existe pas. En tout cas, les Romains n'existent pas. Ils n'ont pas croisé les Carthaginois. La crucifixion n'existe pas. Quand il dit ça, les gens en face de lui ne doivent pas bien comprendre de quoi il parle. C'est pas un truc de la vie de tous les jours. Voilà. Et pourtant, c'est sans doute la description la plus précise qui soit faite du Messie. Donc, Isaïe, un gars qui décrit bien ce qui arrive à Jésus. Et dans le prophète Isaïe, du coup, ce que Jésus choisit comme passage, c'est ça, au début de sa vie publique, c'est à ce moment-là qu'il choisit lui-même de lire ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors, qui est-ce qui est normalement consacré par l'onction dans la Bible? Ce sont les rois et les prophètes. Le geste de l'onction, c'est quoi? C'est de mettre de l'huile sur la personne, enfin normalement sur la tête de la personne, en fait, comme ce qui nous caractérise ou ce qui nous identifie plus facilement. Donc, on met de l'huile sur la tête de la personne pour signifier que Dieu va totalement englober la personne. Et puis l'huile est un corps gras qui pénètre dans notre peau. Quand on a mal, que les enfants, on met de la pommade, on frotte, ça fait de l'huile, et on y frotte encore jusqu'à ce que ça soit rentré. Quand vous frottez, l'huile, elle rentre. Voilà, on a la peau qui est grasse, l'huile, c'est gras, ça rentre dans la peau. Et quand c'est l'hiver et qu'on a la peau desséchée, on met de la graisse, ça rentre. Et ça assouplit le cuir, ça assouplit la peau. Donc, le geste qui a été pris dans la Bible pour... le geste qui a été pris dans la Bible pour signifier cette appartenance à Dieu, ce choix de Dieu qui va englober la personne et puis la posséder de l'intérieur, ça va être le geste de mettre de l'huile. Voilà. Et puis on en met bien, ça coupe bien, extérieurement ça englobe bien la personne, et puis l'huile est quelque chose qui pénètre à l'intérieur. Ce geste-là, c'est le geste de consécration de la personne qui va devenir sacrée, c'est-à-dire qui va rentrer dans le monde du divin, qui va appartenir à Dieu. Donc, le fait de dire « Le Seigneur m'a consacré par l'onction », c'est une façon de dire « Le Seigneur m'a consacré à son service, m'a pris pour lui, m'a enveloppé. Je ne fais plus qu'un avec le Seigneur, je suis totalement uni au Seigneur. » Une fois que la pommade est rentrée, ben bien malin, celui qui pourra distinguer la personne et la pommade. Hein. Ça fait plus qu'un. Et bien de la même façon, le fait de dire « Le Seigneur m'a consacré par l'onction », c'est une façon de décrire le Messie qui doit venir, qui doit à la fois annoncer ce que veut Dieu, être prophète, et puis gouverner le peuple, dire ce qu'il faut faire, etc., être le roi. Donc dans la mentalité juive, et dans tout ce qu'annoncent les prophètes, le Messie, celui qui viendra, mais celui dont on parle, hein, tous les prophètes annoncent, celui qui l'envoyé de Dieu, eh bien, voilà, sera prophète et roi, qui sera consacré par le Seigneur. Et le mot Messie, Messia, en hébreu justement, ça veut dire le consacré. Celui qui doit venir, entre guillemets, nous on dit, voilà, Jésus c'est le Messie, c'est le prophète attendu. Non, c'est le Messie, c'est le consacré qu'on attend. Et puis le mot Messie, Messia, quand on l'a traduit en grec, on a repris ce mot de consacré avec de l'huile, c'est-à-dire chrismatos, voilà. Christos, celui qui a reçu l'onction. Donc Jésus, trait d'union, Christ, c'est la traduction grecque de Yeshua, traduction Messia. Jésus, quand on dit qu'il est Jésus Christ, Christ, c'est un adjectif qu'on lui applique en disant celui dont parlent les prophètes, là, le consacré qui doit venir et avec qui on nous gonfle, là, toutes les deux pages, c'est lui, il s'appelle Jésus. Et Jésus, quand il commence sa vie publique, il dit le Messie, c'est moi. Voilà. Il revendique clairement le titre ou cette description, cette définition de sa personne. Et puis, voilà, nous on est des chrétiens comme Jésus, et puis on reçoit le Saint Crème, qui est une huile consacrée par l'évêque, puis on est marqué au baptême, on en fait marquer à la confirmation. Voilà, c'est une huile avec laquelle on fait des onctions. Voilà. En grec, ça se dit chrisma, donc en français, crème. C'est H-R-E-M-E. Alors, c'est pas de la crème C-R-E, mais c'est H-R-E. C'est le mot grec. Donc voilà. Cette idée de onction, qui est la marque de la consécration à Dieu, ne faire plus qu'un avec Dieu. Voilà. Ou, c'est plus juste pour Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Et entre l'humanité et la divinité en Jésus, ça fait plus qu'un. Donc, on peut dire que son humanité est consacrée, totalement appartenante à Dieu. Comme je l'ai dit, dès sa conception, dès qu'il commence d'exister comme Dieu fait homme, comme Jésus, mais en tout cas, c'est bien son être même. Et lui, il va revendiquer la même chose en disant, prenant ce passage-là, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », du livre d'Isaïe. Voilà ce qu'il fait au début de sa prédication. C'est aussi un élément important de voir quand est-ce qu'il s'applique sur son texte. Donc je vous ai dit, c'est Isaïe 61. Ce texte fait écho à un autre texte du livre d'Isaïe, un peu plus tôt, Isaïe 11, où vous avez un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David, donc c'est-à-dire il sera de race royale, hein, consacré par l'onction, comme les rois. Donc il y aura la succession de David, qui lui a été promise, qui aura un règne éternel, qui jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il y a sept mots. Ça fait les sept dons du Saint-Esprit. C'est là qu'on l'a pris. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire, il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays, donc il connaîtra la vérité, on pourrait dire. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant, justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Donc ça va cartonner, il y a une ceinture, il y a un baudrier, donc ça c'est quand même l'harnachement du militaire. Et puis, avec un bâton, il frappera le pays de sa parole. En tout cas, voilà, il va se passer quelques changements. Tout se fera pas forcément facilement. Il n'empêche que c'est par sa parole, avec la justice et avec la fidélité à Dieu. Voilà ce qui est annoncé du Messie, en disant, toujours pareil, hein, le Messie a été annoncé deux siècles avant à David, hein, comme étant un de ses descendants. Et Isaïe dit, celui qui sortira de la souche de Jessé, le père de David, qui sera dans la lignée royale, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Oui, on retrouve la même expression qu'on avait retrouvée dans ce que Jésus revendique, qu'on avait retrouvé lorsque saint Jean-Baptiste dit du Christ. Celui sur qui repose l'Esprit, c'est lui. Donc on a ces sept dons du Saint-Esprit qui sont implicitement, on pourrait dire, revendiqués par Jésus. Quand il dit, celui dont il est dit, l'Esprit repose sur moi, c'est moi, eh bien, ça veut dire qu'il assume aussi le chapitre 11 avec les sept dons du Saint-Esprit qui sont décrits comme étant l'apanage de celui sur qui reposera l'Esprit du Seigneur. Et reposer, c'est se poser, hein, demeure, reste, comme disait saint Jean-Baptiste. Donc voilà, c'est ce texte dont nous tirons la liste des sept dons du Saint-Esprit. Jésus parle de sa consécration au Saint-Esprit en commençant sa vie publique de prédication du royaume de Dieu. C'est ça qu'il va faire pendant 3 ans. À sa suite, ses apôtres vont avoir un lien entre vie de prédication et Esprit Saint, ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc là, on a vu en Jésus comment ça se passe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en nous. Donc on va regarder ce qui se passe chez les premiers disciples, les apôtres. Est-ce qu'il se passe bien la même chose ? Jésus, je vous dis, il est confirmé, parce qu'il a les sept dons du Saint-Esprit. Il a cette union profonde au Saint-Esprit, donc on est heureux pour lui. Ce qui nous intéresse, égoïstement, ben c'est nous. Qu'en est-il de nous-mêmes ? Donc on va regarder un petit peu ce que dit la Bible des disciples, et puis on verra si ça peut s'appliquer à nous ou pas. Donc, on regarde chez les apôtres, livre des actes des apôtres, et puis il y a ce récit de la fête de la Pentecôte. Donc lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Même chose que Jésus. Et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant, ils ont simplement bu plus que leur compte. C'est alors que Pierre s'avança et prit la parole. Les onze étaient avec lui, il leur cria, « Écoutez donc, amis juifs et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, j'ai quelque chose à vous apprendre. Ne pensez pas que nous ayons bu, il n'est encore que 9 heures du matin. C'est simplement ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, voici ce qui aura lieu. Je communiquerai mon esprit aux humains, quels qu'ils soient. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards des révélations en songe. Même sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Alors sera sauvé, quel qu'il soit, celui qui invoquera le nom du Seigneur. Homme d'Israël, écoutez bien ces paroles. Dieu avait accrédité au milieu de vous un homme, Jésus de Nazareth. Dieu lui avait donné de faire au milieu de vous des miracles, des choses étonnantes et des signes. Vous le savez tous. Cependant, vous l'avez livré, vous l'avez fait supplicier et mourir par la main des païens. Cela répondait à un plan de Dieu qui d'avance avait prévu cela. Mais Dieu l'a délivré des douleurs de la mort et l'a ressuscité. Le royaume des morts ne pouvait pas le garder. Voilà, ça c'est le premier sermon que fait Saint-Pierre. Le premier témoignage qu'il fait. Je dis, c'est la première prédication apostolique après la résurrection. Alors, jusque-là, les apôtres avaient été, effectivement, avec Jésus, surtout en Galilée, re-suivre encore 40 jours de caté, revenir à Jérusalem, il y a l'ascension, et Jésus leur dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez un autre défenseur, quelqu'un d'autre qui à ma suite viendra, qui vous rappellera toute chose, etc. C'est l'Esprit Saint. Donc Jésus leur a demandé de rester tous dans la même dans le même lieu à Jérusalem, et ils sont allés dans leur planque habituelle qui était le Cénacle, donc le lieu où a eu lieu la scène, et que les autorités juives ne connaissaient pas. Judas, il connaissait la planque, il s'est suicidé, donc il n'a pas livré la planque. Et quand il a voulu livrer Jésus, ben il a attendu qu'il soit, on peut dire, isolé, pas dans la ville où on peut crier à l'aide dans les rues et puis avoir des personnes qui viennent, mais au jardin des Oliviers où il n'y a personne pour venir chercher. Et aujourd'hui, on sait à peu près, hein, parce qu'il y a des recoupements qui nous font penser que la planque était effectivement très bien choisie. Il semble que ça soit chez les parents de Saint-Marc, qui n'est pas un des douze, Saint Marc, c'est un des premiers chrétiens et un compagnon de Saint Paul, que la Bible appelle Jean-Marc, qui est a priori le jeune garçon qui s'enfuit tout nu au jardin des Oliviers. Il a suivi, et puis quand on veut le choper, il s'enfuit tout nu, parce qu'a priori, bah, voilà, il n'était pas invité, si on peut dire, à suivre Jésus, mais comme ça se passait chez lui, qu'il était curieux, et qu'il dormait, il a pris son drap, quand il y a lui tout le monde sortait, il a suivi. Et puis quand il s'est fait choper par les gardes du temple, taillot, il avait 14-15 ans, bah, 14-15 ans, on commence pas à friter avec les gardiens du temple. Donc, voilà, il a laissé le drap, il est parti tout nu. Et ce détail du garçon qui s'enfuit tout nu, on l'a dans l'évangile de Saint Marc. Les autres n'en parlent pas. Donc, a priori, il en sait quelque chose. Voilà. Et puis, le fait que le jardin des Oliviers s'appelle Gethsémani, le pressoir, là où il y a un pressoir, a priori, à huile, le pressoir est un bien privé. C'est pas un bien communal. Donc, le jardin de Gethsémani est un jardin privé de quelqu'un. Si le petit garçon de 15 ans, là, il connaît l'endroit et puis que Jésus il sait qu'on peut aller là après, c'est a priori parce que c'est le même propriétaire que la maison qui est au centre-ville de Jérusalem. Et puis, autre indice aussi, c'est que ce petit Marc, on sait qu'il est aussi de famille sacerdotale. Voilà. Son père est un des prêtres qui sert au temple. Et c'est là où la bonne planque de Jésus... de choisir ce lieu-là pour la scène, pour se cacher à Jérusalem, il va se cacher chez l'ennemi. C'est les grands prêtres, les prêtres, le Sanhédrin qui veulent sa peau. Le seul endroit où ils n'auront pas le chercher, c'est dans leur quartier. Donc là où il est, c'est bien planqué, en plein milieu d'une guêpe, tranquille. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, quand vous êtes à Jérusalem, on vous fait visiter un cénacle qui n'est pas le vrai, et si vous demandez à voir le deuxième, le vrai, qui est beaucoup plus crédible au niveau et géographique et puis archéologique, il se trouve effectivement dans le quartier normalement des prêtres. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse pour vous dire que les apôtres étaient tous réunis au cénacle et puis attendant, voilà, dans leur planque, tranquille, que l'Esprit Saint leur soit donné. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint leur est donné. C'est pas non plus un détail que ça soit le jour de la Pentecôte. Si Jésus a prévu ça, que Dieu se donne ce jour-là, il y a aussi un lien symbolique ou un message. La fête de la Pentecôte chez les Juifs, c'est une fête qui existe déjà. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on fête à la Pentecôte? On fête ça, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Mais lorsqu'on dit lorsqu'arrivait la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Donc la fête de la Pentecôte, elle existe déjà chez les Juifs. La fête de la Pentecôte, c'est une fête qui a lieu 50 jours après Pâques, et la fête de Pâques existe chez les Juifs, hein, la libération d'Égypte. La fête de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on célèbre à la Pentecôte? On célèbre le don de la loi au Sinaï. Le don des 10 commandements à Moïse, c'est la fête de la Pentecôte. Et notamment que ces 10 commandements qui sont donnés aux Juifs sont aussi donnés à tous les hommes. Et tous les hommes qui deviennent Juifs, en tout cas c'est comme ça dans leur compréhension des choses, tous les hommes qui ne sont pas de sang juif, mais qui acceptent d'être de religion juive, eh bien, sont appelés à fêter ce don de la loi. Ça aussi, ça les concerne. Tout le reste, ça les concerne peut-être moins, parce qu'ils ne sont pas de race juive. Voilà. Toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, bah ouais, mais vous n'êtes pas du bon sang, vous n'êtes pas du bon peuple, vous n'êtes pas de la race élue. Donc, voilà. Par contre, la loi, elle vous a été donnée, elle est donnée à tous les hommes, et quand vous devenez juif, vous acceptez l'alliance avec Dieu, vous acceptez d'obéir à la loi. Donc le jour de la Pentecôte, les Juifs fêtent le don de la loi pour tous les hommes. Et quand on vous lit, alors je vous ai coupé un petit passage là de la Bible parce que c'est un peu long, on vous lit toutes les nationalités des gens de la rue, Parthes, Élamites, Mèdes, Trutmus, voilà. Ils venaient d'un peu partout, du Proche-Orient et puis de la Méditerranée. C'était qui? C'était des païens convertis au judaïsme qui faisaient leur pèlerinage à la Pentecôte. À la Pâque, c'est les Juifs de sang qui viennent, c'était la Pâque, la grande fête. Et puis... pour ceux qui sont que juifs d'adoption de religion, ce qu'on appelle les prosélytes, eh bien leur grande fête, leur grand pèlerinage, c'est la Pentecôte. Donc ils arrivent tous à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et ils viennent de tout le bassin méditerranéen. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est donné à cette fête-là ? Eh bien, c'est pour dire d'une certaine façon que la loi de Dieu, ce que Dieu veut, c'est une prophétie aussi, ne sera plus écrite sur la pierre, mais dans les cœurs. Ce que Dieu veut n'est plus écrit dans les 10 commandements, mais ça reste vrai, mais c'est dans votre cœur, et c'est dans votre relation à Dieu, dans votre prière avec Dieu, que vous lirez ce que Dieu attend de vous. Ce que vous devez faire à ce moment-là, voilà, au temps opportun. Ce jour de la Pentecôte, les païens sont amenés à l'obéissance de la loi de Moïse. Et le Saint-Esprit est donné ce jour-là pour montrer que tous les peuples, tous les païens, pas que les juifs, sont appelés à recevoir le Saint-Esprit pour lire la loi de Dieu dans leur cœur. Donc c'est le jour de la Pentecôte, c'est un signe effectivement qui est donné, où on vous dit que tous furent remplis de l'Esprit Saint, tous, c'est les 11 apôtres qui restent, donc c'est que des juifs. Et puis, il dit, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël, « Je communiquerai mon esprit aux humains, quels qu'ils soient, à toutes les nations. » Et puis, même, donc, sur mes serviteurs, sur mes servantes, d'abord sur le peuple juif, « Je répandrai mon esprit. » Ils prophétiseront, donc, sur les juifs et sur tous les hommes. Voilà ce qu'avait annoncé le prophète. Et on retrouve toujours le même schéma. Jésus, il vous prend le livre d'Isaïe et il dit « Comme a dit le prophète, l'Esprit repose sur moi. » Saint-Pierre, il va vous dire « Comme a dit le prophète, là c'est Joël, l'Esprit repose sur eux, sur les hommes. » Mais on a exactement le même parallèle. Dieu a annoncé qu'il donnerait son Esprit, qu'il reposerait sur le Messie. Et puis, dans les derniers jours, à la fin, quand les choses seront faites, donc moi j'ai envie de vous dire, après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, il communiquera aussi son esprit aux hommes. Ce que je vous rajoute là aussi comme petit commentaire, je vous dis, la Pentecôte et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, à qui Jésus avait dit lors de la scène, « Vous êtes tous purs ». Mais non, pas tous, sauf un, sauf Judas. Mais sinon, les autres, ça va. De la même sorte, ceux qui ont été baptisés, s'ils sont tous purs, donc nous on est baptisés, rendus purs, doivent-ils être confirmés dans la grâce par le don de l'Esprit Saint. Les apôtres, on pourrait dire, est-ce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour être des Gabiens? Non, ils étaient déjà des Gabiens. Voilà. Saint-Pierre a renié, il a demandé pardon, il est rétabli, tout va bien. Mais en tout cas, voilà, ils sont déjà disciples de Jésus, quand ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur est donné, en plus, pour affermir leur qualité, leur être de disciples de Jésus, et puis, avec ce petit côté aussi qu'on va voir, qui est d'en témoigner aux autres. C'est le premier sermon de Saint-Pierre, c'est le premier témoignage des apôtres. C'est la première fois que publiquement, ils commencent à dire et prouver qui était Jésus, pourquoi ils l'ont suivi, etc. Et puis petit à petit, se rendant compte que c'est au risque de leur vie, au péril de leur vie qu'ils le font. Et là, il le dit simplement gentiment, hein, Saint-Pierre. Hein. Voyez, Dieu avait envoyé, accrédité au milieu de vous un homme, Jésus de Nazareth, il faisait des miracles, et pourtant, vous l'avez livré, supplicié, fait mourir par la main des païens. Voilà. Mais c'est pas grave, Dieu avait prévu ça, et Dieu s'en tire quand même. Mais il leur dit quand même, vous n'êtes pas totalement innocent. Hein. Voilà. Et c'est cette petite clause qui fait que jusque-là, ils étaient planqués, c'est qu'ils avaient bien peur, effectivement, qu'on vienne les chercher aussi en tant que disciples. Et puis, c'est ça, effectivement, qui, en tout cas, leur témoignage de Jésus, et puis le message qu'il propage, hein, qui leur vaudra, effectivement, quelques ennuis avec ce qu'on appelle la synagogue, avec le Sanhédrin, avec le conseil des les grands prêtres juifs. Ensuite, dans le livre des Actes des apôtres, toujours le même, un peu plus loin, au chapitre 8, on va voir le fondement biblique du sacrement de la confirmation. Donc là, je vous dis, bon, voilà, à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend comme un grand sur les apôtres. Il y a aussi, ensuite, le sacrement en tant que tel qui est donné par les apôtres aux autres hommes. Donc au livre 8 des Actes, il écrit « Quant à Saül, donc le futur saint Paul, lui aussi a prouvé ce meurtre. Ce jour-là, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. » Donc le meurtre, c'est saint Étienne, hein, le premier diacre martyr de l'église, le premier martyr de l'église. Donc ce jour-là, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem, contre les chrétiens de Jérusalem, persécutés donc par les juifs. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Ceux qui s'étaient dispersés allaient répandre partout la bonne nouvelle de la parole. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean, qui sont évêques, leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. C'est là où je vous dis qu'il y a la mention du sacrement, c'est qu'on sait qui donne, et c'est un apôtre, donc même deux, donc des évêques pour nous, Pierre et Jean, qui font un geste d'imposition des mains, qui est un geste traditionnel hein, de bénédiction, de transmission de la protection de Dieu, et ils recevaient le Saint-Esprit. Voilà. Il y a une persécution contre les chrétiens de Jérusalem, fomentée par les juifs. Tout le monde se disperse, et puis là où ils se dispersent, bien, finalement, ils commencent à témoigner, puis à prouver que dans les prophètes, on parle de Jésus, etc. Ils font d'autres disciples. Et puis une fois qu'ils ont fait des disciples, qu'est-ce qu'on fait? On va faire au chef, hein. On dit, chef, on fait quoi maintenant? Donc on demande aux apôtres qui eux sont restés à Jérusalem, vous pouvez venir, venez voir ce qui se passe chez nous, parce que voilà, on a d'autres disciples, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et quand ils arrivent, donc on dit prière pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, c'est un peu curieux comme phrase. Donc ils étaient seulement baptisés. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. S'ils ne sont que baptisés et que les apôtres doivent rajouter une couche, c'est bien qu'il y a la confirmation du baptême qui est nécessaire. Ce n'est pas une option, la confirmation. Voilà.
C'est la seule spécificité, différence entre le prêtre et l'évêque, c'est ce pouvoir de confirmer.
Non, parce que l'évêque peut déléguer le pouvoir de confirmer à un prêtre. Oui. La différence entre l'évêque et le prêtre, c'est le pouvoir d'ordonner. De faire un autre prêtre ou évêque. Voilà. Et ça se trouve effectivement chez saint Paul, qui a ordonné Timothée. Et saint Paul, il est évêque aussi, donc il s'est ordonné aussi par les apôtres quand il vient les revoir à Jérusalem, après sa conversion. Mais du coup, la différence, enfin. Et par exemple, chez les catholiques maronites, donc au Liban, le prêtre confirme. Il confirme l'enfant au baptême. Le baptême et la confirmation. Voilà. Et il n'est que prêtre. Donc c'est. Les prêtres pourraient confirmer, mais dans le rite latin, c'est pas l'usage. Mais après, voilà, l'évêque nous délègue pour. Mais c'est tout. C'est une autorisation. Et en cas de danger de mort, on peut confirmer, on a délégation permanente pour les cas limites, c'est-à-dire des dangers de mort. Voilà. Et s'il y a danger de mort, et que la personne n'est pas confirmée, qu'on le sait, qu'on présume parce que c'est un enfant ou je ne sais pas quoi, on doit confirmer avant de donner l'extrême onction. La dernière onction, ça doit être l'extrême onction. Voilà. Donc, avant de l'onction de l'extrémité, il y a l'onction du début, du baptême, il y a l'onction du milieu, la confirmation, et il y a l'extrême onction à la fin.
Et est-ce qu'en cas de danger de mort, une personne même pas baptisée, et qu'il demande à cet instant-là, vous pouvez délivrer,
Oui. Mais si la personne, a priori, n'est pas baptisée, effectivement, on commence par baptiser, et si on a le temps, effectivement, après on confirme, et après on extrémise. Voilà. mais au moins, effectivement, baptême, confirmation, comme allant de pair. Quoi. Et puis, il serait onction. Alors, pas dans le but de pardonner les péchés, ça c'est le baptême, mais de donner la force en vue de l'agonie. Ça, il gagne quelque chose de plus. Voilà, donc, on fait quand même. Voilà. On fait le pack survital en cas de danger de mort. Voilà, exactement. Donc voilà, vous avez cette chose-là. Il n'était seulement baptisé, donc ça, il manque quelque chose, confirmation du baptême, et puis baptisé au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà. La différence, c'est à l'époque où c'est écrit, il y a encore deux baptêmes en usage. Il y a le baptême de Saint Jean-Baptiste, baptême symbolique de conversion, et le baptême au nom de Jésus, selon la mode, le mode de Jésus, qui est le baptême chrétien, baptême d'union à Dieu, efficace, on pourrait dire, symbolique, efficace. Maintenant, si c'est au nom de Jésus, rassurez-vous, c'est le vrai baptême, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, avant l'ascension, il dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder les commandements, etc. » Donc il donne la formule. Voilà. Donc quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus, en fait c'est selon le mode que Jésus a dit. On baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et non pas comme Jean. Donc ils sont vraiment baptisés, comme nous, et pourtant ils sont vraiment seulement baptisés, il manque un truc. Les disciples les ont baptisés, les apôtres doivent les confirmer. Ils imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et vous verrez que dans la cérémonie de la confirmation que j'ai effectuée tout à la fin, l'évêque vous impose les mains, et après, vous faites l'onction avec lui. Vous avez le geste biblique de l'onction, le geste apostolique de la position des mains. Et vous êtes confirmé. Donc j'ai dit, voilà, consacrés à Dieu par le baptême, les disciples sont affermis pour l'action. Il y aura toujours une idée de témoignage aussi dans le sacrement de confirmation. Jésus, il revendique les dons du Saint-Esprit au début de sa vie publique. C'est son premier serment. Et après, il va faire sa vie de prédication. Donc l'idée de témoignage, de sermonner les autres, est présente dans la confirmation. Chez les apôtres, même chose, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils ouvrent leur bec. Saint-Pierre, premier serment. Et après, vie de prédication. Et puis, voilà, pour nous, ça va être, vous en doutez, la même chose. On reçoit Saint-Esprit, début de la vie publique, ou en tout cas, on est conformé à Jésus à cet instant-là de sa vie, c'est-à-dire, commence sa vie adulte et puis commence sa vie de témoignage. Et on vous dira effectivement que la confirmation, ça vous rend adulte dans la foi. Même chez les maronites, l'enfant, il a 15 jours, il est baptisé, confirmé, il est considéré comme adulte dans sa foi. Alors qu'au fait, il ne sait même pas dire à eux, mais on s'en fiche. Ce que ça veut dire, c'est que dans la foi, il est conformé, son âme est, rendue semblable au cœur de Jésus à sa vie adulte. Voilà. Il peut commencer à témoigner. En tout cas, il est doté, il est équipé pour témoigner. Le baptême, le Saint-Esprit m'est donné pour me conformer à Dieu, pardon, à un chrétien, faire de moi un homme uni à Dieu, à la ressemblance de Dieu qui s'est uni à l'homme, et puis à la confirmation, c'est affermi, renforcé, dans le but, non pas de me rendre saint, ça c'est le boulot du baptême, mais de me rendre témoin. Ça c'est le boulot de la confirmation. Donner l'équipement, la grâce, l'aide de Dieu pour témoigner. Affermir mon baptême, ça fait pas de mal, dans le but d'être témoin. Ensuite, deux textes que nous n'irons pas parce que c'est largement à propos, mais que vous lirez avec avidité. Je vous ai mis le passage de la première épître aux Corinthiens où il parle de l'unité de l'Église, où on voit que le Saint-Esprit donne à chacun un rôle dans l'Église pour édifier l'Église du Seigneur. Donc on dira que l'Esprit est l'âme de l'Église, c'est ce qui inspire l'Église et puis donne son édification, qui dit à chacun où est-ce qu'il doit se situer, tout comme notre âme, c'est ce qu'il dit à mon doigt, de rester à la main droite et de ne pas changer de main. Et puis ensuite, un deuxième texte de saint Paul, où il décrit l'action du Saint-Esprit, l'action de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, donc ce que lui, il appelle la chair, pas forcément dans le sens, sensuel que ça peut avoir en français, mais en tout cas, c'est la chair, c'est le côté matériel. Et puis après, en parallèle, eh bien, il décrit le monde de l'esprit, le côté spirituel de l'affaire, c'est-à-dire l'homme qui ne suit pas que ses instincts et qui s'élève au niveau de Dieu. Et puis après, pareil, j'ai mis des textes bibliques concernant le Saint-Esprit. Dans la Bible, vous avez plein de bonnes choses qui peuvent vous aider à cerner un peu mieux qui est Saint-Esprit.